Chalie m'était comptée. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lors de nos dernières émissions, nous avons évoqué le livre médiéval. Et j'ai eu quelques questions dans la mesure où les termes parfois sont assez abscons, d'air difficile à comprendre, et on a tendance à mélanger. Alors je voudrais revenir simplement un petit peu sur ce que nous avons étudié, entre guillemets, lors de nos deux dernières émissions, c'est-à-dire le livre. Mais ce livre médiéval, il a effectivement différentes façons d'être élaboré. Alors, le premier terme peut-être qu'on peut évoquer, c'est le terme de volumen, le volume ou le rouleau. Les rotulis, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, ce sont des textes qui sont écrits sur des grandes bandes de papyrus, de tissu, de parchemin, et qu'on va enrouler sur deux bâtonnets. C'est-à-dire que vous avez le bâtonnet, si vous êtes droitier, le bâtonnet de droite, où il y a énormément de textes enroulés, puis de petit à petit, en lisant, vous allez, avec la main gauche, enrouler le texte sur le bâtonnet de gauche. Mais vous doutez bien que pour les premiers chrétiens qui sont cachés dans les catacombes, cet objet, ce rouleau, est assez considérable et peu pratique lorsqu'on a la volonté de se cacher. Qu'en est-il exactement? Est-ce la vérité ou pas? Mais en tous les cas, il apparaît que le petit livre, tel que format presque livre de poche, tel que nous l'entendons de nos jours, serait né justement de cette exigence d'avoir des écrits qui soient faciles à cacher dans, évidemment, les réseaux souterrains pour éviter d'être pris par les méchants qui habitent au-dessus, en quelque sorte. Le livre lui-même, tel qu'il est relié, on va l'appeler le codex. Alors là aussi, selon l'origine, on dit que ça viendrait d'une explication de Sénèque, que codex vient des planches. Bon, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, c'est pas le sujet. Mais on n'a pas effectivement parlé de l'imprimerie. C'est-à-dire, évidemment, le manuscrit médiéval, il s'arrête à ce moment-là. Et cette imprimerie qu'on donne, évidemment, au niveau d'invention, un certain Gutenberg, tout le monde le sait. En réalité, ils étaient trois quand même, et qui habitaient non pas Mayence, mais Strasbourg d'abord. Il y avait, comme d'habitude, il y avait un ingénieur technicien, il y avait véritablement celui qui était au départ de l'invention, entre guillemets. On verra que ce n'est pas le premier à l'avoir inventé, d'ailleurs. Et puis, il y avait le financier. Et puis, le pauvre Gutenberg, il repart avec le trio à Mayence. C'est pour ça que souvent, on établit à Mayence l'invention de l'imprimerie. Et puis, il va se faire avoir par les deux autres. Il va terminer dans l'indigence. Alors, qui était Gutenberg? Eh bien, ce n'est pas du tout un lettré, c'est un orfèvre. Ceux qui ont inventé véritablement le caractère mobile, avec les usages qu'on en connaît jusqu'au XIXe siècle, ce sont des orfèvres. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls à connaître la pratique du métal. Parce que pour faire un caractère mobile, il faut d'abord fabriquer une matrice, c'est-à-dire on va dessiner la lettre, on va la sculpter sur un support en bois, et avec cette lettre en relief, on va taper très fort sur un métal moins résistant, et on va donc imprimer en creux cette lettre. Et puis, troisième opération, on va prendre un métal encore plus malléable, le plomb par exemple, pour fondre à l'intérieur donc, de ce moulage en creux qu'on a créé, pour fondre la lettre. Voilà pourquoi les premiers imprimeurs sont avant tout, enfin disons ceux qui vont utiliser caractère mobile en Europe, sont avant tout des orfèvres. Mais nous n'avons pas résolu le problème de l'illustration. Nous avions évoqué la dernière fois les lettrines, c'est-à-dire cette première lettre du paragraphe qu'on va présenter d'une façon tout à fait différente, une grande taille, elle va être décorée de motifs géométriques, voire même d'animaux fabuleux, etc. Bien, cette lettrine, on ne peut pas la réduire à un caractère typographique. Et puis, il y a surtout les enluminures, qui sont des véritables tableaux. Et là encore, il n'est pas question, évidemment, d'avoir une reproduction très, très facile. La photocopieuse n'existait pas. Donc, il va falloir trouver d'autres moyens pour reproduire les images. Donc, pendant cette période, on reproduit déjà des images, mais là, ce coup-ci, on va laisser tomber les orfèvres, les spécialistes du métal, et on va se tourner vers les ébénistes, en quelque sorte, c'est-à-dire ceux ou les sculpteurs, qui sont capables de faire en creux sur le bois ce qu'on imprimera ensuite en relief, entre guillemets, avec un ancrage sur la feuille. Hein, c'est ce qu'on appelle la xylogravure, c'est-à-dire on grave sur le bois. Donc les parties creuses que l'on va évider dans le bois, on va les remplir évidemment par de l'encre, un coup de tampon d'encre, et puis avec une presse, on va appuyer le parchemin ou le papier sur cette empreinte. La xylogravure va avoir beaucoup de succès. On va même trouver des véritables BD hein, à disposition des gens qui ne savent pas lire. Donc ce sont des BD où le texte est très réduit. Ils le connaissent s'ils ont envie de faire l'effort de lecture ou sont capables de le faire, parce que ça correspond aussi à des éléments de la liturgie, donc ils ne sont pas perdus en quelque sorte. Et cette reproduction sous forme de à partir de l'empreinte en bois va avoir des heures tout à fait intéressantes pendant encore des siècles. On va ensuite évidemment l'affiner, puis ensuite on va aussi coloriser à la main, ou colorier comme vous voulez à la main les surfaces. Et il faudra attendre une autre invention, qui aura d'ailleurs un certain succès, c'est la gravure sur métal, hein, qu'on va utiliser par la suite, qu'on utilise d'ailleurs pour certaines œuvres d'art, hein, pour faire des estampes, etc. On va continuer à l'utiliser, bien sûr. On ne va plus graver au poinçon, on va utiliser des acides, enfin vernis acide. Et puis il y a une autre façon de reproduire une image, c'est la lithogravure. Et si j'en parle, litho, la pierre, lithos c'est la pierre, hein, donc la gravure sur pierre. Alors ça suppose évidemment un calcaire assez relativement à grain très fin, pour qu'on puisse avoir évidemment le trait le plus fin possible. Et j'en parle d'autant plus que nous sommes dans une région de pierre à lithogravure. Et le liège de Senlis était connu jusqu'au XIXe siècle et a fait en partie la fortune des bourgeois de Senlis pour établir ces plaques de lithogravure. On s'en servait également, c'est moins sympathique, enfin c'est moins joyeux, pour faire les dalles funéraires. Là aussi, où on gravait un texte tout autour, etc. Donc, la senlis a très longtemps, je dirais, encore une fois, jusqu'à la fin du 19e, au début du 20e, avant la guerre 14, on va dire, voilà, pour fermer la porte, a très longtemps vécu grâce à cette fameuse pierre qui était dans le sous-sol, bien sûr, de l'espace senlisien. Voilà simplement quelques précisions que je désirais apporter en complément aux présentations que nous avions faites lors des émissions précédentes. Alors maintenant, on va continuer notre parcours médiéval. Nous allons retourner à Chély. Là aussi, avant de parler de littérature, revenons dans le monastère. Hein, comment vivait-on dans ce monastère? D'ailleurs, c'est un peu une contradiction. Mono. Être tout seul, ils sont à plusieurs. Bon. C'est-à-dire, bien sûr, au départ, on a l'origine de ces monastères à partir de personnes qui s'isolent, hein, ce qu'on appelle les ermites, en quelque sorte, et qui s'isolent et qui, petit à petit, ont tellement de succès qu'ils vont être entourés petit à petit de disciples, d'élèves, de condisciples. Et c'est comme ça que s'établit le monastère. Eh bien, dans ce monastère, le jeune qui va se trouver être novice dans ce monastère va y passer toute sa vie. J'insiste sur le fait que là, c'est nous qui sommes passés quelque temps dans une situation de confinement. Vous voyez que ça, on paraît encore un peu ridicule quand on évoque cette vie de groupe qui n'a pas de fin, hein, sauf à partir et à passer par-dessus les murs. Eh bien, ils vont toujours passer 24 heures sur 24 ensemble dans ce groupe cénobitique, hein, et avec toutes les difficultés que ça peut supposer. Faut pas croire que dans les monastères il y avait que des moines qui étaient à l'école de la sanctification, hein. Donc il y avait une vie collective importante. Il y avait même des endroits assez traditionnels sous l'escalier des matines où, pardonnez-moi le mot, on s'engueulait. Hein, on laissait un peu, on libérait un peu la parole, même si parfois ça devait être assez violent en quelque sorte. Mais ça permettait d'avoir un rôle un petit peu de soupape dans la vie sociale qui se développait journellement, mensuellement, annuellement, dans un espace clos quand même. Donc eux étaient les véritables confinés. Et vous savez qu'en grande partie, les cisterciens devaient éviter de parler. Et, et nous, nous n'allons pas évidemment évoquer ce sujet aujourd'hui, mais je tiens à dire que là encore, ils ont trouvé un autre moyen de parler, puisqu'ils ont développé une véritable gestuelle. C'est-à-dire que puisqu'on ne pouvait pas prononcer les mots, eh bien on allait les écrire dans l'espace. Et penser un petit peu à la gestuelle actuelle des gens, de ce qu'on appelle les non-voyants, hein, qui utilisent ces gestes. Il y a d'ailleurs des choses intéressantes, puisque certains gestes utilisés par les moines cisterciens se retrouvent dans la langue des signes actuelle.
Je vais dire les sourds plutôt.
Je veux dire
les sourds plutôt.
Les sourds. J'ai dit les aveugles.
Les non-voyants, voilà.
Bon, non, parce que je pensais en même temps, je vous dois une explication et puis une excuse en même temps, c'est parce que je suis toujours très surpris des termes qu'on utilise maintenant. On ne dit plus aveugle, on dit non-voyant, etc. Oui. Mais on ne dit pas non-entendant. bon, c'est une petite remarque en passant, et pour avoir discuté avec des gens qui connaissent des handicaps, bien, je crois qu'ils partagent tout à fait cet avis. Oui. Bien, après cet aimable bavardage, j'espère, en tous les cas, nous allons revenir à la vie d'un moine tout à fait particulier qui s'appelle Guillaume de Digulville. Eh bien, nous allons évoquer donc un moine qui petit à petit devient un moine célèbre. Hein, ça dépend évidemment des recherches universitaires qui ont été développées ces dernières années. Il se nomme Guillaume. Bon, Guillaume, c'est un nom très courant, bien entendu, au Moyen-Âge. Ou William, si vous préférez. De Digulville. Je vais l'appeler D-I-G-U-L-E-V-I-L-E. On l'écrit également Digulville d'apostrophe. Ou aussi Digulville. L'orthographe n'est pas fixée, encore plus pour les noms propres. Donc, vous imaginez les confusions que ça peut éventuellement apporter. Nous allons nous en tenir à Guillaume de Digulville. Alors, si je parle Digulville, et là je dis Igulville, c'est un petit village qui nous donne l'origine de notre Guillaume et qui se trouve près d'un endroit assez célèbre qui s'appelle le Cap de la Hague. Vous voyez, des fois, il y a des petits rayons dans le coin, enfin bon. Puis on y entrepose des choses assez mystérieuses. Donc il vient de là, c'est un Normand du Cotentin. Je vais faire aussi la promotion pour toute la région du Cotentin, qui se présente un peu comme une petite Bretagne. Et donc il va par la suite venir faire ses études au Collège Saint-Bernard. C'est le cas de la plupart des moines qui sont partis pour prononcer leurs vœux dans un monastère cistercien. Alors, est-il venu avant d'aller au Collège Saint-Bernard? Puis a-t-on jugé qu'il n'était pas assez savant? Difficile à le dire, on n'a pas d'archives qui nous permettent évidemment de préciser tout cela. Sa date de naissance, on la connaît, c'est 1295. Vous voyez, on est vraiment à l'extrémité du 13e. On sait qu'il fait ses études et qu'il arrive à Chaly en 1316. Donc il a terminé en grande partie son apprentissage au collège Saint-Bernard, et à l'époque il a 21 ans. Il va passer toute sa vie à Chaly. La date de sa mort actuellement ne nous est pas connue, hein, donc nous n'allons pas jouer les savants. Hein. Certains auteurs nous parlent de 1380, c'est pas impossible, hein, vous retrouvez ça dans un dictionnaire d'un homme qui a disparu récemment qui s'appelle Alain Ray, hein. Grand philologue. Mais enfin bref, je ne peux pas évidemment assurer cette date. On sait quand même qu'il a vécu une vie assez difficile dans le monastère, et on le sait en lisant entre les lignes des différents manuscrits qu'il va composer. Il semble qu'il ait été engagé dans les querelles que nous avions évoquées ensemble à propos de Jacques de Thérines, vous vous en souvenez. C'était ces querelles qui vont ensanglanté, on va dire, leur royaume. Ça va être l'expulsion des Juifs, ça va être surtout aussi l'extermination des Templiers, hein, avec la confiscation. Ça va être aussi le retour à une règle plus stricte qui est demandée par le pape. Ça va être les querelles avec le roi de France pour l'exemption. Enfin bref, il est en pleine turbulence. On peut dire que ses écrits ont été aussi marqués, évidemment, parce qu'il vivait. Hein, ce n'était pas une simple âme. Il avait aussi un corps qui devait souffrir des grandes difficultés de l'époque et des dangers, évidemment, que présentaient les guerres intestines qui éclataient dans notre région. Alors, on lui doit une œuvre tout à fait considérable. Je vais simplement évoquer quelques titres, et puis je vous donnerai quand même, non pas le nombre de pages, mais le nombre de vers. Vous verrez que ce sont des diversifications, donc hein, vous vous rendez compte. Alors, parmi les ouvrages, le premier, c'est le Pèlerinage de vie humaine. Alors, il a été rédigé entre 1330 et 1331. Et il comporte 13 540 vers. Bon, vous voyez, vous avez de la lecture, n'est-ce pas, pour les soirées d'un insomniaque. Par la suite, il va écrire un ouvrage qui va nous intéresser, nous, à Chalais plus précisément, qui s'intitule « Le roman de Fleur de Lys ». Il est beaucoup plus court que le précédent. Il est écrit vers 1338 et ne comporte, si j'ose dire, que 1331 vers. J'en parle, c'est que nous avons eu l'occasion, avec des collègues, d'adapter le roman de Fleur de Lys pour le rendre lisible, car il est écrit en ancien français, hein, pour nous le rendre lisible, ou pour le rendre lisible aux amateurs qui désiraient savoir un petit peu le contenu de ce roman, qui est tout à fait dans la ligne du roman de la Rose. Hein. Le manuscrit suivant nous emmène vers un autre ouvrage intitulé « Le pèlerinage de vie humaine ». Nous aurons aussi une seconde version en 1355. Et puis arrive le pèlerinage de l'âme, qui lui sera écrit entre 1355 et 1358, et lui comporte 11 650 vers. Et si vous n'en avez pas assez, je vous proposerai de lire 11 poèmes qui sont en latin et qui ont été composés entre 1331 et 1358. Ils sont composés d'ailleurs d'octosyllabes groupés en strophes de 12 vers, hein, c'est très précis. Et ensuite, la dernière œuvre, ce sera le pèlerinage de Jésus-Christ, qui sera rédigé, lui, vers 1358, et qui ne compose que 11 190 vers. Et ce pèlerinage de Jésus-Christ, nous allons aussi en parler d'une façon plus précise. Car il commence par ces mots.
L'homme était né d'un don. Le souffle de la terre s'était prolongé en un cri de joie et il avait jailli dans l'océan du monde. Il était perfection, le maître de la terre, de tout le firmament, il contenait l'univers. Toute la création était entre ses mains. Il était le centre, la mesure, l'étalon.
Voilà la définition qu'il donne en quelque sorte de Dieu. Ce qui nous change évidemment de ce que l'on entend à cette période, et ce qui m'amènera évidemment plus tard à évoquer Guillaume pour dire qu'il est à la charnière de la dévotion, je dirais collective, qui est celle d'un monastère, qui petit à petit va se modifier pour aller vers une dévotion individuelle. Cette dévotion individuelle qu'on va retrouver dans d'autres religions chrétiennes, je pense à ceux qu'on appelle les protestants, bon, eh bien, cette définition va leur convenir parfaitement. Et une petite anecdote, j'ai eu il y a, oh, le temps passe vite, une vingtaine d'années, une amie qui était conservateur à Wörlitz, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres au sud de Berlin, et qui a assisté évidemment en 89 à la chute du mur, et petit à petit à la réunification, et donc qui a eu l'occasion de mettre son nez dans les archives de l'ancienne RDA, et qui un jour m'écrit « Écoute Jean-Marc, j'ai trouvé un de tes Guillaume ». Ah bon ? Elle savait que je m'intéressais à Guillaume de Digulville. Elle me dit « Oui, oui, je l'ai trouvé ». Je lui dis « Mais tu l'as trouvé où ?» Elle me dit « Bah, dans un lycée de jeunes filles piétistes ». Les piétistes, c'est un petit, je ne veux pas dire que c'est les intégristes, mais c'est les gens qui sont très pratiquants, enfin qui sont très attentifs à leur religion, mais il s'agit de protestants. Hein ? Donc, il était rédigé d'ailleurs en néerlandais. Hein. Ouais. Mais ce qui est assez étonnant, c'est il a été utilisé jusqu'au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe. C'est-à-dire qu'on avait, là-bas, dans l'ex-Allemagne de l'Est, hein, ouais, on avait des jeunes filles qui étaient éduquées à partir du manuscrit d'un catholique cistercien qui s'appelle Guillaume de Digulville. Et cette renommée va s'étendre d'ailleurs dans toute l'Europe occidentale. Alors, dans ses poèmes, Guillaume se montrait à la fois fin technicien, il s'amusait à faire des acrostiches. Vous savez, c'est l'acrostiche, c'est-à-dire qu'on va utiliser le nom du premier mot de chaque vers, et quand on lit verticalement, on a une autre lecture. Mmh. Et donc, bout à bout, par exemple, on va trouver le texte de l'Ave, ou le texte du Pater, ou du Credo, etc. Et de temps en temps, d'ailleurs, il parle de lui parce qu'il en mettant son nom. Hein. Voilà. Il va aussi s'adonner à la paraphrase. Hein. Donc, c'est toute l'exégèse qu'on peut faire, qu'on peut porter à partir d'un cantique, d'un ave, etc. Il va, n'oubliez pas, composer aussi, j'en parlais tout à l'heure, des poèmes sur la Trinité, sur Jésus, sur Marie, sur l'honneur du Christ, sur la Vierge, sur Saint-Denis, et puis des saints qui sont un peu moins connus de nos jours, je pense à Éleuther, Rustique. Il va même jusqu'à composer des prières pour Saint-Michel, pour Saint-Benoît, et puis, n'oubliez pas, mon cher voisin, pour Saint-André, et aux anges gardiens. Il n'a pas dit André, l'ange gardien. Encore qu'André, n'est-ce pas, ça veut dire homme. Hein,
oui,
si je ne m'abuse.
Andros,
voilà,
en grec.
Andros. Donc, voilà un petit peu l'éclectisme de Guillaume de Digulville. Alors, ce qu'on appelle les pèlerinages, donc de l'âme de Jésus, etc., vont devenir des best-sellers de la seconde moitié du XIVe siècle, et même du XVe siècle. On le verra quand on va parler d'un autre événement médiéval qui s'est déroulé à Chaly, on verra que le roi Charles V et même Charles VI les avaient acquis pour leur propre bibliothèque. On dit même qu'ils ont constitué leur livre de chevet. Bon, je n'irai pas jusque-là, on a toujours tendance évidemment à magnifier ce qui appartient au lieu dans lequel vous évoluez. Donc, je pense au pèlerinage de vie humaine. Il nous le dit, comment l'idée lui en est venue. Eh bien, il dit simplement, eh bien, c'est après la lecture du roman de la Rose, de Jean de Main, etc. Bon, tout le monde peut essayer de voir un petit peu quel est le contenu du roman de la Rose. Et là encore, il a lui aussi une vision. Vous savez, c'est dangereux de parler de soi-même, c'est dangereux d'aller contre la loi, c'est dangereux d'aller contre la théologie qui est alors à l'honneur. Donc, la façon de s'en sortir, c'est de voir les choses en rêve. Ah, vous avez dit ça, mon cher confrère, n'est-ce pas ? Mais non, c'était en rêve. Donc, évidemment, ça a évité une censure qui serait tombée sans doute très brutalement sur le crâne de notre moine, qu'on aurait accusé, évidemment, de blasphème, hein, tout simplement. Après cette lecture du roman de la Rose, donc, on va le voir se promener, d'où la notion de pèlerinage. Et il va aller jusqu'à Jérusalem et il va se promener en compagnie de différentes allégories. Alors, il y en a une qui représente la mémoire, etc. Et il va leur arriver un certain nombre d'aventures. Ils vont faire des rencontres. Il va y avoir des dialogues et on en reparlera à la fin de notre émission. Vous pourrez juger que certains sont tout à fait étonnants. Je dis simplement... par exemple, quand il va se retrouver à Bethléem, alors il va voir Marie et il dit « Mais je comprends pas, vous êtes la reine du ciel et puis vous faites naître votre petit dans une étable, il y a quelque chose qui ne va pas là. » Vous voyez, il en est dans une relation tout à fait personnelle là aussi. Oui. Et bon, il n'hésite pas évidemment à poser ce qui représente pour lui les vraies questions. Alors, ces pèlerinages, par la suite, étaient... mise en prose, on le verra, par différents traducteurs, par différents érudits. Hein. On peut évidemment les retrouver dans les siècles qui vont suivre. Certains ont été imprimés plusieurs fois avant 1500. 1500, c'est la date clé. Hein. Avant, on appelle ça un incunable, je parle des livres. Hein. Et à partir de 1500, on ne donne plus son nom. Un moine de Clairvaux va même composer à son tour une adaptation des trois pèlerinages. On va trouver des traductions que j'évoquais à l'instant en anglais. Il y en a une qui est réalisée à Westminster en 1483. On va le trouver en espagnol, à Tolosa, 1490. Hein. On va le trouver traduit en flamand. On va le trouver traduit également en allemand. Et puis surtout, on va connaître de nombreuses adaptations ou d'imitations tout au cours du XVIe et XVIIe siècle.